Vous êtes sur RTL. Soir. RTL dimanche soir. Le MacPol.
Vincent Parisot.
Le MacPol, c'est le magazine de l'actualité politique sur RTL. Et l'actualité politique, elle se fait sur RTL chaque dimanche à la mi-journée dans le grand jury RTL, Le Figaro et LCI. Invité exceptionnel aujourd'hui, Jean-Dominique Sénard, le PDG de Renault, un grand patron au cœur de la crise, au cœur de la crise économique, après l'annonce d'un plan de restructuration qui prévoit de nombreuses suppressions de postes. Il était donc l'invité du grand jury. Je vous propose d'en écouter les moments forts et puis de débriefer ensuite avec ses intervieweurs.
Je crois que tout le monde peut comprendre que nous avons créé une entreprise qui était destinée a priori à fabriquer 5,5 millions de voitures. Nous en avons fabriqué que 3,8 millions. C'est pas la peine de faire de longs travaux sur le sujet pour comprendre qu'on a un sujet. En fait, si vous voulez, nous sommes trop importants dans nos structures, partout.
Vous avez trop d'usines.
La course au volume que nous avons, d'une manière ou d'une autre, mise en œuvre, c'est vrai d'ailleurs pour Nissan, a provoqué un certain nombre de situations, tant dans le niveau de l'ingénierie, qu'au niveau de nos frais généraux, que dans le niveau de la production, d'une forme de surcapacité. Est-ce que je vais vous dire un chiffre? En France, une capacité de production de voitures de l'ordre de 1 080 000 voitures. Vous savez combien on en a fabriqué l'année dernière? 650 000. Comment voulez-vous ne pas être ému quand on est chef d'entreprise comme moi, après toutes ces années d'industrie, après avoir vu toutes nos usines dans le nord de la France? Ces usines qui sont totalement sous-utilisées. Comment voulez-vous qu'on imagine une usine comme Douai, avec une capacité de 350 000 ou 400 000 véhicules dans les temps passés, et qui n'en fabrique que 80 000 ?
C'est pour ça qu'ils sont inquiets.
Est-ce que vous... Mais bien, je
qui
comprends.
Se disent,
mais
si je vous entendent, ils se disent il n'y a pas assez de production, donc on va fermer les usines.
Il y a en France aujourd'hui une surcapacité de véhicules. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes trop large en termes de structure pour ce que nous sommes réellement.
Donc, c'est un plan de repli de Renault.
Plan de rebond. Ça me va beaucoup mieux. C'est pas parce qu'on se muscle pour mieux repartir qu'on est perdu. Au contraire. Aujourd'hui, on aurait dû, je pense, anticiper ça plus tôt. C'est à nous de le faire. C'est mon devoir de vérité. C'est mon devoir. Et nous allons le faire ensemble.
Voilà. Alors, vous avez un devoir de vérité. Vous le dites et vous insistez aujourd'hui spontanément là-dessus. Qu'en est-il, par exemple, de l'usine de Caudan en Bretagne? Vous avez dit que l'usine, pour l'instant, restait ouverte et les salariés s'en sont félicités. Et en même temps, dans le monde, Jean-Dominique Sénard, vous dites « son avenir n'est pas dans le groupe Renault ».
Oui.
Est-ce que cela signifie que cette usine est aujourd'hui à vendre?
Oui, je pense que ça fait partie des solutions possibles. On a dit très clairement que nous allions ouvrir une analyse stratégique sur cette entreprise. Et donc, parmi les solutions que nous allons discuter avec d'ailleurs les parties prenantes, la cession en fait partie. Clairement, je pense que cette entreprise n'a pas vocation à rester dans le groupe
Qu'est-ce
Renault.
Qu'on fabrique à Caudan?
On y fabrique la fonderie d'acier. Avec l'évolution incroyable des technologies de motorisation des véhicules, cette entreprise, depuis des années, sait très bien que son avenir est à risque. Je pense que c'est notre responsabilité collective de nous occuper des personnes qui travaillent dans ce site, de les former, de les aider à trouver un avenir, plutôt que de faire comme on a fait probablement pendant des années, c'est-à-dire perdre énormément d'argent tous les ans et engloutir finalement en pure perte, parce que finalement les gens qui souffrent à la fin, ce sont les travailleurs de cette usine. Et je pense à eux tout le temps, parce que je me dis qu'on a maintenant un seul devoir, c'est de s'occuper de leur avenir.
Quand l'État vous demande des contreparties, vous trouvez ça normal ou anormal en termes
à ce prêt prévu de 5 milliards d'euros garanti par l'État?
Je vais vous dire ce que je pense de cela. Je crois que l'État nous appuie et il nous permet de constituer un filet de sécurité qui est en réalité un ensemble de prêts bancaires auxquels il va apporter sa garantie. Je vais vous dire une chose. Il sera de l'honneur de Renault de rembourser ces prêts bancaires si nous les utilisons et de dire que nous n'aurons jamais utilisé un euro des contribuables français. Voilà. Ce n'est que dans le cas où nous ne pourrions pas le faire que l'État se substituerait à nous, et alors à ce moment-là, j'en serais très triste, parce que ça voudrait dire que nous aurions raté notre transformation. Je n'ai pas cette grille en tête.
Et Jean-Dominique Sénard, quand vous entendez toutes ces politiques qui s'émeuvent de ces fermetures, c'est le cas de Maud Beuge avec Martine Aubry, avec Xavier Bertrand, comment vous percevez ces pressions politiques?
Jamais je ne qualifierais d'irresponsable une personne politique. J'ai une grande admiration, un grand respect pour leur métier. Ce que je voudrais, c'est, dans l'avenir, comme j'ai toujours souhaité d'ailleurs, que les équipes politiques du pays prennent en compte l'avenir de notre industrie sans se concentrer sur des objectifs court terme qui parfois ont une connotation, électoraliste. Et je pense que les grands hommes et les grandes femmes politiques de notre pays sont précisément celles qui sont capables de prendre le recul nécessaire. Je crois que quand on parle du sujet de Renault et de son avenir, tout le monde comprend très bien le sujet. Et donc je n'ai aucun doute que les propos de ces personnes reflètent finalement la qualité de la relation que nous avons dans notre compréhension commune.
RTL dimanche soir,
le MacPol.
On refait donc ce grand jury de Jean-Dominique Sénard, le PDG de Renault, Nissan, Mitsubishi, avec ses intervieweurs, Adrien Jeanne pour LCI et TF1. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Guillaume Roquette pour Le Figaro. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Vincent.
Et bien sûr Benjamin Sportouche pour RTL.
Bonsoir.
Comment vous êtes apparu Jean-Dominique Sénard, le patron donc du groupe Renault? Est-ce que il vous est apparu comme un patron aux abois?
Non, c'est un patron qui sent que le défi qu'il doit relever n'est pas aisé. Et c'est un patron ému au début. C'est vrai que, alors, vous pouvez me dire, on peut se dire, est-ce que c'est fin ou pas? En tous les cas, il y a eu l'expression d'une émotion. On a senti qu'il était un peu déstabilisé par ce qu'il a vu à Maubeuge. Je pense que sincèrement, peut-être, il ne s'y attendait pas de manière aussi importante, parce que finalement, il n'avait jamais dit que Maubeuge fermerait, et il l'a reconfirmé aujourd'hui. Mais c'est là où il en veut aux politiques, quand même, hein, en estimant, il le dit, qu'ils sont électoralistes. Donc on sent bien que ce Maubeuge, eh bien, ça devient compliqué pour lui, et que ça peut gâcher tout ce plan dont il estimait qu'il pouvait se faire en douceur, non pas avec des licenciements secs, mais avec un accompagnement de ceux qui sont sur le départ en fin de carrière.
D'ailleurs, il a rappelé, il a insisté, il a rappelé sa fibre sociale, quand même, dès le début de l'émission, Adrien.
En fait, c'est le fil rouge de toute cette interview pour lui. C'est aussi ce qu'il était venu nous dire, de toute évidence. Quand il dit qu'il n'y aura pas de casse sociale, quand il dit qu'on fera attention au sort des sous-traitants et des intérimaires y compris, quand il dit que sur tous ces sujets-là, la réussite de son plan, c'est aussi, et l'ADN de sa vie, c'est de faire en sorte, justement, qu'on prenne en compte les situations individuelles. C'est assez malin de sa part, parce que ça permet aussi de présenter un visage très humain aujourd'hui. Il a beau être venu nous expliquer qu'il y allait avoir 15 000 suppressions de postes chez Renault, dont 4 600 en France, on a presque l'impression qu'au fond, ce qui compte, c'est uniquement le sauvetage de Renault. C'est très très bien présenté, il faut le reconnaître.
Mais c'est justement pour ça qu'il a du mal avec les politiques, parce que lui a le sentiment, et c'est une conviction qu'on sent sincère, qu'il faut absolument faire ce plan. Alors il ne veut pas dire que Renault peut mourir, parce qu'il dit qu'il n'aime pas ce mot pour les entreprises, mais c'est quand même la survie du groupe qui est en jeu. Il dit d'ailleurs qu'il en a parlé aux politiques, il nous a dit qu'il avait parlé à Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, nous laissant entendre que celui-ci comprenait ce qu'il fallait faire. Et donc quand après les mêmes politiques disent « c'est inadmissible de restructurer des sites trop, trop brutalement », il a le sentiment d'un double langage.
Alors, les sites, justement, il a quand même donné des informations importantes sur Maubeuge, sur Flins et sur Choisy-le-Roi.
Et sur Choisy-le-Roi, à la fin, où il a dit qu'il irait, puisqu'il y a une inquiétude. Choisy-le-Roi est un site qui va fermer, mais il a été très clair sur Maubeuge, très clair sur Flins. Après Maubeuge, c'est vrai qu'il y a une interrogation. Si vous délocalisez une partie de la production à Douai, vous dites, qu'est-ce qu'on va faire à Maubeuge? Et globalement, ce qu'il dit, et c'est là qu'on peut s'interroger sur le fait que ce n'est qu'un plan provisoire, parce que d'ici, on va faire de la voiture électrique. Ils veulent être premier constructeur. Et il reconnaît que pour faire de la voiture électrique, il faut moins de salariés. C'est ce que nous avait dit Carlos Tavares il y a quelques mois quand il était venu début mars. Et bien, du coup, il peut avoir davantage de casse sociale. Alors, pour l'instant, il y a ce plan-là, et clairement, 15 000 licenciements, enfin suppressions de postes, pas majoritairement en France. Ça veut dire qu'on utilise les usines à l'étranger pour éviter d'avoir à faire davantage de licenciements dans l'Hexagone.
Il a eu une formule que n'aurait certainement pas eu son prédécesseur. Je ne cherche pas à être le numéro un.
Oui.
C'est vrai que là, on voit la rupture stratégique. C'est-à-dire qu'il y avait une course à la taille qui avait été engagée par Carlos Ghosn et qui s'est traduit, il le dit, il le reconnaît, par des surcapacités. C'est-à-dire qu'il dit, nos usines sont trop grandes. En fait,
par rapport à ce qu'on produit.
Et par rapport à ce qu'on vend, surtout.
Et ce qu'on vend,
donc,
oui, bien sûr.
Donc, parce que la production est adaptée aux ventes et donc il y a un outil qui est en surcapacité. Et au moins, de ce côté-là, il est clair. Alors, il ne veut pas attaquer l'homme. Carlos Ghosn, parce que c'est pas son genre, c'est plutôt quelqu'un de.
Enfin, il faut être humble. Quand il dit il faut être humble,
bien sûr,
on entend bien le message.
Il est bien élevé, mais il n'est pas idiot, donc on comprend bien le message.
Et puis il a quand même passé toute l'émission à nous expliquer que la stratégie de Renault dans les années passées n'avait pas été la bonne. En fait, il le fait de manière très posée, très calme, très tranquille, parce que c'est son style. Ouais. Sans esprit de polémique, mais en rappelant bien que les transformations n'avaient pas été engagées assez tôt. Quand on lui pose la question sur PSA, il dit que oui, ça peut être une source d'inspiration, parce que PSA a engagé des transformations beaucoup plus précoces. Et quand il est à la fois dans renoncer à la place de numéro 1, quand il est en même temps dans arrêter les ambitions surdimensionnées, clairement, on voit vers qui il pense.
C'est quand même, vous parliez de patron social, c'est quand même un enjeu important pour lui. Il est considéré comme un patron qui fait attention à ses salariés. Il a eu l'onction quelques quelque part, de cette association avec Nicole Notat, qui va aujourd'hui réformer la sécurité sociale, ou en tous les cas, qui est missionnée pour cela. Donc, il a eu à cœur, pendant des années, d'être ce patron qui est un peu différent. Donc, pour lui, bien sûr, tout peut être gâché par cette affaire. Donc, on sent qu'il le prend très à cœur, parce qu'il est en fin de carrière, il a 66, 67 ans, il veut partir sur une bonne image.
Sur un point sensible dans cette période post-coronavirus, qui est la relocalisation, est-ce qu'il vous est apparu très, très clair, très droit dans ses bottes ?
Alors, je dirais plutôt qu'il est clair dans sa volonté de ne pas accélérer les délocalisations. Alors, je m'explique, il dit, on arrête d'investir sur des sites comme ceux que le groupe a au Maroc, ou en Roumanie, ou en Turquie. Pour autant, il ne dit pas, on va rouvrir des usines en France, puisqu'au contraire, il y a quand même un redimensionnement à la baisse. Mmh. Donc, on va dire qu'il est très prudent là-dessus. Il dit, c'est le sens de l'histoire, mais il n'y a quand même pas de mesures spectaculairement concrètes.
Oui, il n'a pas du tout embrayé, il ne s'est pas dit on va profiter de la période du Covid pour reprendre les discours politiques sur ce thème-là. Il est extrêmement prudent. Sur les batteries électriques, il le fait un tout petit peu, en disant qu'on produisait en Chine jusque-là et qu'effectivement, avec le consortium européen sur les batteries électriques, il va y avoir une production plus locale.
À condition de se tourner vers les nouvelles technologies de batterie.
On ne sent pas d'un enthousiasme non plus forcené sur ce thème.
En filigrane, et pour rebondir sur ce que disait Guillaume Enquête, il est très bien élevé, donc il ne va pas casser les politiques, mais on entend bien qu'il dit qu'ils ne comprennent pas grand-chose, les politiques, si vous voulez, qu'ils sont là à vouloir faire moins de pollution, plus d'électricité, mais ils ne se rendent pas compte derrière ce que cela signifie. Donc il est bien éduqué, mais il le dit quand même.
Oui, de la même façon que quand on l'interroge sur les 80 km/h, il dit « Ah ben moi, si j'avais été le Premier ministre, j'aurais demandé aux élus locaux, dont on sait pertinemment qu'ils étaient contre cette mesure. »
Ouais. Donc il est bien élevé. Et,
mais il dit des choses.
Et quand même, il dit des choses, et par exemple, qu'il est contre l'abandon de la réforme des retraites. Il a fait de la politique.
Très clairement. Et puis il veut, il ne faut pas l'oublier, il veut qu'on travaille davantage.
Il veut qu'on travaille.
C'est dit.
Et il soutient Darmanin, enfin le ministre des Comptes Publics.
Ça, c'est peut-être parce qu'il va avoir besoin de financement quand même.
Merci messieurs, en tout cas, d'avoir débriefé ce grand jury exceptionnel qui recevait donc aujourd'hui Jean-Dominique Sénard, le PDG de Renault Nissan Mitsubishi. Merci Guillaume Roquette, Adrien Gindre et Benjamin Sportouche.
Merci.
Allez, on marque une pause et puis on continue ce débrief du grand jury avec nos deux invités. L'ancien ministre Yves Jégot, aujourd'hui chantre du Made in France et de la relocalisation. On sera ensuite avec l'économiste spécialiste de l'automobile Bernard Julien. À tout de suite.
RTL dimanche soir, le Mac Paul.
Vincent Parisot.